Vous êtes sur RTL.
Nous serons avec Laurent Gérard dans quelques minutes, mais à 8h43, notre revue de presse et Amandine Bégaud. Et d'abord des pneus éternels, Amandine.
Oui, bientôt fini le casse-tête du changement de roue. Enfin, les ingénieurs de chez Michelin y travaillent. C'est ce qu'on découvre ce matin dans Ouest France. Un pneu increvable, entièrement biodégradable et rechargeable. Rechargeable via ce qu'on appelle la bande de roulement, c'est-à-dire la partie qui est directement en contact avec la route. Elle pourrait être, c'est en tout cas ce sur quoi travaille l'entreprise, fabriquée avec une imprimante 3D à partir de déchets de l'agriculture. Ça fait rêver. Mais attention, ne vous emballez pas, le pneu éternel, ce n'est pas pour tout de suite, pas avant 8 à 10 ans, explique ce matin le directeur de la recherche de chez Michelin. Le groupe, en tout cas, n'est pas le seul à plancher sur le sujet, puisque l'américain Goodyear a imaginé remplacer les roues telles qu'on les connaît aujourd'hui par des sphères, des boules bleues qui seraient recouvertes d'une peau bionique qui serait capable à la fois de sentir l'état de la route, de modifier sa surface selon les conditions météo et surtout, de se réparer toute seule. À quand, en revanche, le portable éternel? Ça, on n'a pas la réponse et pourtant, visiblement, il y a urgence. Les déchets électroniques, c'est aujourd'hui à l'échelle de la planète 44 millions de tonnes chaque année, l'équivalent de 4500 tours Eiffel. 4500, c'est ce que nous explique ce matin Libération, qui consacre une double page à la plus grande décharge d'objets électroniques du monde, l'endroit aussi le plus pollué du monde, plus que Tchernobyl. Agbogblochi, c'est au Ghana. Chaque année, d'immenses camions, raconte Libé, y déversent quelques 40 000 tonnes de matériel venu tout droit des pays développés. C'est pourtant en théorie totalement interdit par le droit international. Des ordinateurs, des télévisions, des téléphones bourrés de plomb, de mercure, d'arsenic qui polluent les sols. À Agbogblochi, les niveaux de pollution sont parfois, écoutez bien, 100 fois supérieure au seuil autorisé. Autour des baraques de fortune où s'entassent environ 40 000 personnes, des récupérateurs comme on les appelle, de jeunes hommes pour la plupart, qui vivent du recyclage informatique. Ils brûlent les câbles et les déchets pour récupérer le cuivre notamment, et ce au péril de leur vie. La combustion dégage en effet des fumées hautement toxiques. « Je sens la fumée entrer dans mes poumons », raconte ainsi Thomas, 18 ans. Il a commencé à travailler dans cette décharge à l'âge de 13 ans. C'est édifiant et à dire donc dans Libération ce matin.
Libé qui, comme la plupart de vos journaux, revient sur le début du procès de la tuerie du musée juif à Bruxelles.
Oui, lisez ce matin La Provence. Grande enquête sur la radicalisation de Mehdi Nemmouche, le principal accusé. C'est à la prison de Salon de Provence, hein, visiblement, que tout s'est joué. Pas loin finalement de là où il a été arrêté quelques jours après la tuerie. Incarcéré là-bas entre 2008 et 2010, Nemmouche fait partie d'un petit groupe d'une douzaine de détenus qui exercent, je cite le directeur de la prison de l'époque, a une très forte pression pour que les autres respectent leur vision de l'islam. Il les force notamment à ne pas manger de porc, à faire la prière, à ne pas écouter de musique. Le directeur évoque aussi un projet d'attentat suicide. Le groupe avait, dit-il, l'intention de faire entrer des explosifs dans la prison pour démontrer qu'ils pouvaient frapper n'importe où. Et c'est à la suite de ce projet que le directeur de la prison demande le transfert de tous ses détenus. Nemmouche lui aurait alors soufflé ceci: vous, les suppôts de la République, vous devriez me supprimer physiquement, car dès que j'en aurai l'occasion, je n'aurai de cesse d'éliminer le plus de personnes. C'est glaçant, glaçant quand on connaît la suite, 4 ans plus tard, à Bruxelles. Dans ce contexte, lisez aussi ce portrait étonnant, celui de celle qui est peut-être la plus grande tueuse de djihadistes. C'est dans le magazine Society, Johanna Palani, c'est une Danoise de 25 ans. Elle aurait, explique le journal, tué pas moins de 100 djihadistes. Invérifiable. Elle dit d'ailleurs n'avoir elle-même jamais compté. Née en Irak, dans un camp de réfugiés, 2 ans après la fin de la première guerre du Golfe, Johanna a 3 ans lorsque sa famille part se réfugier au Danemark. Elle en repartira 15 ans plus tard, à l'âge de 18 ans, direction la Syrie. Pas pour s'engager aux côtés de l'État islamique, non, pour le combattre, pour défendre, dit-elle, son peuple. Elle y devient sniper aux côtés des militaires kurdes. De retour au Danemark, elle est arrêtée, à interdiction de quitter le pays. Elle fera finalement 4 allers-retours en total avec la Syrie, 4 jusqu'à son incarcération en novembre 2017. Elle est alors condamnée à 9 mois de prison. Depuis sa sortie, elle vit en permanence avec un épais gilet pare-balles. L'État islamique aurait, dit-elle, offert 1 million de dollars à qui la tuera. C'est stupéfiant. Et c'est donc à lire dans le tout nouveau numéro de Society qui sort aujourd'hui.
C'était donc la revue de presse d'Amandine Bégaud. Laurent Gérard dans un instant.